Le Bouddha, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Om Mahom. Bienvenue à toutes, à tous, bonsoir. Notre soirée est consacrée à une présentation, une réflexion, une considération de la discipline. Dans le Dharma, ce que l'on nomme la discipline est le premier des trois apprentissages. La voie avec sa pratique, son entraînement, tout son cheminement se résume en trois apprentissages, celui de la discipline, celui de l'expérience profonde et celui de la compréhension. L'apprentissage donc commence par de la discipline. Et une réflexion préliminaire peut-être nécessaire pour comprendre que la discipline est le moyen, la méthode qui nous permet d'accomplir, de réaliser ce que nous souhaitons et ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons. Quelle que soit l'étude ou l'entraînement que l'on conduise ou que l'on mène, celui-ci demande une discipline. Et jusque dans les mots, toutes les disciplines que peuvent être les beaux-arts, les mathématiques, la chimie, les langues, je ne sais, tous les sujets d'étude, toutes les disciplines que l'on peut, y compris, on pourrait aussi mettre toutes les disciplines sportives, intellectuelles, physiques et vocales. Toutes les disciplines demandent pour dans leur apprentissage et encore plus pour arriver à leur maîtrise, une discipline. Et on est disciple d'une discipline en suivant sa discipline. Alors, ça fait beaucoup. Et d'une façon générale, on a des réticences souvent par rapport à la discipline. C'est pourquoi il est important de voir la discipline non pas comme une contrainte ou comme quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur et que l'on subit, mais comme le moyen que l'on se donne pour réaliser et arriver à ce à quoi l'on aspire. Donc, de ce point de vue, c'est l'outil de nos aspirations. Cette discipline dans le Dharma a des dimensions extérieures, intérieures et fondamentales. Et on pourrait commencer à parler de la discipline de l'attention, la discipline de la pleine conscience, la discipline de la pleine présence, la discipline de la présence attentive, la discipline de l'attention. Si l'on n'est pas attentif, il n'y a pas de discipline. C'est l'attention qui nous permet de faire attention, de faire attention à ce que l'on fait, de faire attention à ce que l'on dit, de faire attention à nos comportements, à nos attitudes. Et la discipline telle qu'elle est envisagée dans le Dharma est une discipline de santé, là. Une discipline de vie. Ce n'est pas une discipline moraliste qui consisterait à se conformer à des arguments d'autorité, divin, humain ou quel qu'il soit, mais il s'agit d'une discipline de vie au sens d'une attention à cultiver dans sa vie ce qui est bon et ce qui est sain. Ce qui est sain et bon, tout simplement parce que ce qui est sain amène santé pour soi, pour les autres, santé étant aussi l'harmonie, santé, harmonie, bien-être, bonheur, marche ensemble. Donc, la discipline consiste à faire attention à vivre de façon saine dans nos différentes attitudes de corps, de parole et d'esprit. Il y a ainsi la discipline dite extérieure qui va consister à faire attention dans notre vie quotidienne, nos faits et gestes continuels. Faire attention à cultiver les comportements sains et à éviter les malsains. Il y a là un repère classique qui est connu comme les 10 actes positifs et les 10 actes négatifs. Aujourd'hui, je vais vous donner les 10 négatifs qui sont à éviter, qui sont malsains et qui sont à éviter parce que pathogènes, ils créent souffrance, difficultés, aussi bien pour soi que pour les autres. 3 du corps, tuer, voler et la mauvaise conduite sexuelle. 4 de la parole, créer par ses paroles, alors mentir, créer la disharmonie, paroles blessantes et futiles. Puis au niveau de l'esprit, 3, que sont la malveillance, la convoitise et les vues erronées. Ça fait 10. Pour les positifs, c'est pas compliqué, c'est le contraire des négatifs. Je ne vais pas les énoncer pour l'instant. Je vous laisse. Ceux qui ne connaissent pas par cœur, je vous laisse chercher. Donc, c'est là la discipline extérieure. Et nous sommes à chaque instant, alors, dans l'instant présent, ici, maintenant, continuellement, nous sommes toujours comme à la bifurcation de deux routes, ou dans une situation de choix, d'alternative. Et par là même aussi de responsabilité. Nous avons continuellement dans l'instant présent une liberté et la discipline et ce qui nous permet dans l'attention de choisir la bonne voie, de choisir l'attitude saine et d'éviter celle qui est pathogène ou disharmonieuse. Entendu qu'on récolte ce que l'on sème, et si l'on a des comportements disharmonieux, l'on en récolte de la souffrance, alors que les comportements harmonieux amènent bien-être et bonheur. Cette éthique discipline extérieure, vous remarquez que discipline et éthique, ici, là, sont étroitement liées. La discipline est la pratique ou l'application d'un comportement éthique. Après la discipline extérieure, il y a la discipline intérieure, qui est plus délicate, car elle ne consiste pas tant à simplement éviter certains types de comportements ou cultiver certains types de comportements, mais la discipline intérieure est en rapport avec notre état d'esprit, notre motivation. Et dans la voie ouverte universelle, les vaillants, les vaillantes, Bodhisattva comme on les nomme, ont pour discipline de cultiver un état d'esprit bienveillant en toutes circonstances, la bienveillance, une attitude qui souhaite ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est heureux pour tous, donc, pour soi et pour tous, pour les autres et pour soi. Cette bienveillance universelle que l'on peut aussi nommer une forme de bonté, d'amour, de compassion, qui est dans le Dharma nommé l'esprit d'éveil, ou le cœur-esprit d'éveil, une attitude d'ouverture d'esprit et de cœur, mais d'ouverture empathique et bienveillant. Donc, la discipline intérieure consiste à apprendre à vivre dans cet état d'esprit positif, bienveillant, et à le cultiver en toutes circonstances. Cette état d'esprit bienveillant peut s'exprimer aussi dans la règle d'or de la discipline, ou dans la règle d'or même de l'éthique universelle, de l'éthique naturelle et universelle, règle d'or universelle qui s'énonce comme tout simplement ne fait pas à autrui la violence dont on ne voudrait être victime. Cette règle de non-violence, de douceur, de bonté, de bienveillance, de respect de l'autre comme un autre soi-même. Cette règle d'or, bien connue dans les humanismes et dans nombre de religions, règle d'or, il y a différentes formulations, mais qui expriment toujours la compréhension, l'expérience de l'autre comme un autre soi-même et le respect de l'autre comme de soi et par là même le fait de ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous soit fait. Donc, cette discipline intérieure, plus difficile que la discipline extérieure, et plus profonde, qui est celle des bodhisattvas, les vaillants, les vaillantes, dont la vaillance consiste justement à porter en soi cette motivation de bienveillance, en toutes circonstances. Et la discipline fondamentale. La discipline fondamentale qui vient après, il y a une intériorisation de la discipline extérieure à l'intérieur et de l'intérieur à la fondamentale. La discipline fondamentale est la plus difficile. Elle est la plus subtile, la plus délicate, et elle consiste à être toujours en l'état de présence, d'immédiateté. Discipline fondamentale et l'entraînement qui cultive en toutes circonstances, dans toutes les circonstances de la vie, l'état de la présence instantanée, de l'instantanéité immédiate. C'est la discipline du Mahamudra, les disciplines du Dzogchen. Ces trois niveaux de dimension de la discipline s'imbriquent les uns dans les autres. La discipline fondamentale comprend la discipline intérieure et la discipline extérieure. Dans la discipline fondamentale, la discipline intérieure et extérieure sont spontanées, naturelles. De même que la discipline intérieure comprend la discipline extérieure. Dans la bienveillance de la règle d'or, les actes négatifs seront naturellement évités et les positifs seront naturellement cultivés. Donc, l'apprentissage consiste par commencer avec la discipline extérieure qui est le terrain de l'intérieur et en laquelle s'éveille la fondamentale. On peut aussi, bien sûr, s'entraîner d'entrer à la discipline intérieure et ou à la discipline fondamentale. Et elles sont globalement complémentaires et s'entraident. Mais si l'on commence du plus facile vers le plus difficile, ce sera de l'extérieur vers l'intérieur et la fondamentale. Donc, voilà cette, ce bref exposé des aspects de la discipline et le lien qu'il y a dans tous ces aspects de la discipline, et comme je vous le disais au début, l'attention. Sans attention, pas de discipline extérieure, pas de discipline intérieure et pas de discipline fondamentale. Donc, attention dans une présence, vigilance, une attention, présence attentive, présence ouverte, la qualité d'attention pouvant se porter ensuite dans tous les domaines. Je vous propose que nous nous arrêtions ici et de vous donner la parole si vous avez des remarques, des observations et ou des questions.
Il n'y a pas de questions sur Internet. Je veux juste vous dire qu'il y a le Sangha Loka de Lyon qui est présent avec nous.
Les Lyonnais sont avec nous. Waouh. Et rugissons ensemble avec le grand lion. On espère toujours avoir le chant des Lyonnais à l'occasion, ce sera le tube. Jeune yogi, que...
Bonsoir.
Bonsoir.
Pour la discipline de l'attention, je voulais poser la question de savoir s'il était nécessaire de ralentir. Ralentir notre rythme quotidien, enfin, notre rythme de vie, on va dire, pour pratiquer bien l'attention. L'attention.
Oui, pour cultiver l'attention, il est utile de ralentir. Lorsque l'on, dans notre fonctionnement habituel, on est dans des réactions continuelles, automatiques, dans ce qu'on appelle certaines fois le pilotage automatique. Et le pilotage automatique, c'est la réactivité automatique, mais c'est la réactivité. On n'est pas dans l'attention à ce moment-là. L'attention est au présent et l'attention est une qualité de détente dans le présent. Attention, sans tension, à particules privatives. Et l'attention qui est une présence vigilante et relaxée. Et donc, il est bon, il est important d'apprendre à décrocher du pilote automatique, du pilotage automatique, pour entrer dans l'instant présent. Le fait de ralentir est utile et nécessaire, et même généralement indispensable. C'est pour cela que l'on s'assied dans l'assise. C'est aussi pourquoi l'on fait des moments de retrait, de retraite, pour sortir des attitudes habituelles et pour pouvoir cultiver cette présence attentive. Là, il est utile de ralentir et c'est très facilitateur. Ça n'est pas un objectif et il ne s'agit pas de venir ralentir et de tout faire au ralenti. Et lorsque l'attention est stable et est devenue un état, elle permet d'être beaucoup plus rapide. Elle permet d'être beaucoup plus rapide. Il y a une présence complète et dans laquelle les choses se font sans qu'il y ait d'interprétation, de filtre. Donc il y a une immédiateté extrêmement rapide et efficace. Mais dans l'apprentissage et dans un premier temps, il est très important de savoir ralentir.
Merci.
S'il vous plaît.
Une question du Sangha Loka de Lyon, de Tarchin. Les samayas sont-ils des aspects de la discipline?
Les samayas, oui. Le samaya et la discipline, on peut dire fondamentale, on peut dire secrète. Et le samaya est le lien sacré qui nous relie à la réalité fondamentale. Et ce lien sacré se vit dans la connexion à la transmission, au lama, à la pratique et au mandala, frères et sœurs, compagnons. Mais, oui, c'est dans le Vajrayana l'expression de la discipline. De la discipline fondamentale, disons. C'est un aspect de la discipline fondamentale dans le cadre du Vajrayana.
Une autre question du Sangha Loka de Lyon, de Jean-Marc.
Jean-Marc, bonsoir.
En quoi la bienveillance de l'esprit de la discipline extérieure diffère-t-elle de la bienveillance de la discipline intérieure ?
Dans la discipline extérieure, effectivement, dans les actes positifs de l'esprit, il y a déjà la bienveillance, qui est le contraire de la malveillance. Donc, c'est un premier niveau. Dans la discipline intérieure, la bienveillance est centrale et elle prend une dimension plus profonde, plus particulière, comme bodhicitta, comme vraiment l'état de cœur et l'état d'esprit qui éveille et qui est dans une véritable bienveillance authentique. Tout ce qui est fait est pratique d'éveil. La bienveillance authentique et profonde transforme tout ce que l'on fait en pratique du dharma. C'est cette bodhicitta est une pierre philosophale qui transforme toute activité en l'ordre d'une pratique d'éveil. La bienveillance est toujours la bienveillance, mais il y a une intériorisation, une amplification et un approfondissement de la bienveillance qui, dans la voie universelle, devient tout à fait centrale et au cœur de la pratique. Bientôt, j'espère que quand on est comme ça avec Aloka, on pourra se parler. On va essayer de faire une connexion, clavardage pour tout l'azimut et une connexion audio lorsque nous sommes en relation avec Aloka. Ce sera une façon aussi de trouver un certain équilibre. S'il vous plaît, Nérine.
Une question de Sergio de Prel.
Sergio de Prel. Bonsoir.
Bonsoir, Rinpoche. Pouvez-vous parler des Senzin concernant les moyens de cultiver l'attention, en particulier les 21 respirations? Merci.
Les Semzin, ce nom en tibétain Semzin signifie poser l'esprit ou fixer l'esprit. C'est une pratique d'attention dans laquelle l'attention se pose sur un support d'attention, il y a un ancrage ou un positionnement de l'attention. L'attention peut se poser sur n'importe quel expérience sensorielle. Il peut aussi y avoir des supports d'attention visuel, support d'attention auditif, support d'attention tactile, gustatif, support d'attention mentaux. Et c'est cette pratique des Semzin, qui est celle aussi de ce que l'on nomme shamatha, d'apprendre à rester tranquille, stable dans l'expérience d'une unique chose à la fois, et la discipline qui conduit à l'expérience profonde. C'est un aspect de la discipline qui amène la stabilité de l'esprit. C'est l'entraînement à la stabilité. Et cette stabilité se développe en apprenant à ralentir, pour faire le lien avec ce que nous disions précédemment, plutôt que d'être continuellement dans le zapping, une seule chose à la fois est stable. Merci Sergio.
N'hésitez pas à poser des questions, sinon je continue. Benoît de Besançon,
bonsoir.
L'expression à cœur vaillant, rien d'impossible, a-t-elle un rapport quelconque avec la pratique par les bodhisattvas, démontrant l'évolution naturelle et optimiste pour passer de la discipline extérieure via l'intérieur vers la fondamentale?
Oui. Articulez bien, qu'on vous entende bien. Je crains que À cœur vaillant, rien d'impossible. Et c'est une belle maxime qui la vaillance, le courage peut déplacer des montagnes, comme on dit. Et si l'on a la motivation et une forte motivation, on a la capacité de réaliser ce à quoi l'on aspire dans une résolution, motivation, avec la vaillance, le courage, l'ardeur. Rien d'impossible. En sachant utiliser la bonne méthode aussi, c'est-à-dire la discipline. Le vaillant saura aussi s'ordonner ou ordonner son approche pour réaliser ce à quoi il aspire. Mais c'est une très belle maxime, et c'est une maxime de Bodhisattva. À cœur vaillant, rien d'impossible. À Bodhisattva, rien d'impossible. En s'en donnant les moyens, la méthode, et avec la persévérance nécessaire. C'est même ainsi que l'on peut arriver à l'éveil. S'il vous plaît.
Une question de Jampa de Dordogne.
Jampa de Dordogne, bonsoir.
Bonsoir Rinpoche. Bonsoir Avalon. Vous nous avez parlé de discipline. Pouvez-vous nous parler des éventuels liens avec la maturité et le sens de la responsabilité? Est-ce le sentiment de responsabilité de tous nos actes, des corps, paroles et esprits, qui anime la bienveillance et la discipline fondamentale?
La responsabilité est liée à la liberté. C'est parce que nous sommes libres, ou au moins que nous avons une certaine liberté, parce que nous ne sommes jamais complètement libres, mais c'est parce qu'il est toujours dans l'instant présent une certaine liberté que nous sommes responsables, ou qu'il est une responsabilité qui est celle d'utiliser cette part de liberté que nous avons dans la direction saine, dans la direction de l'éveil. Et il y a là un lien avec la discipline. C'est la discipline consiste dans l'attention, telle qu'on en parlait, à utiliser cette liberté pour aller dans la bonne direction, pour faire le bon choix. Il est de notre responsabilité d'être justement attentif pour faire le bon choix, et c'est là la discipline. Et ce bon choix peut se faire sur des critères extérieurs, intérieurs ou fondamentaux. Alors, extérieur, tel que l'on en a parlé, avec le repère des actes positifs et négatifs. Intérieur, dans la bienveillance, la bonté, l'ouverture du cœur et de l'esprit. Et fondamental, la question ne se pose pas vraiment, mais en l'état, la réponse adapté s'accomplit spontanément. En tout cas, oui, la responsabilité, liberté et discipline, ainsi, ont un lien. Est-ce que c'était votre question?
Mmh. Donc elle n'a pas encore répondu. On attend de sa réponse. Il y a d'autres questions sur le net. Ça fuse ce soir. Benoît de Besançon.
Benoît de Besançon, bonsoir.
Est-ce que le Bodhisattva respecte strictement les disciplines destinées au Bodhisattva, c'est-à-dire aider d'abord les autres êtres sensibles à s'éveiller tout en progressant lui-même vers son propre éveil définitif?
Le Bodhisattva vit dans cette bienveillance, cultive la bienveillance altruiste et comprend que c'est en faisant le bien des autres que l'on accomplit son propre bien. Et accomplir le bien des autres et accomplir son propre bien n'est pas différent. Donc, dans sa motivation de bienveillance, dans sa motivation altruiste, dans son comportement altruiste, le Bodhisattva accomplit ce qui est bon pour autrui et il accomplit aussi ce qui est bon pour soi, et c'est aussi ainsi qu'il chemine vers l'éveil et qu'il réalise l'éveil. Bien. Une dernière question.
Alors,
il y a une madame qui...
Parce que les questions sont plus vraiment liées au sujet, donc alors, je les poserai.
Et on va passer le bâton de parole, puis s'il y a... S'il vous plaît, posez votre question, puis je la répéterai, que tout le monde l'entende. Alors, la question est, en étant attentif et bienveillant, ne risque-t-on pas de s'oublier?
De s'oublier et aussi de faire que l'autre oublie d'être attentif.
Et que l'autre oublie d'être attentif à notre propre bienveillance, à notre propre intérêt. Être bienveillant, c'est être... bienveillant avec tous les autres, et c'est aussi et même d'abord être bienveillant avec soi. Dans la séquence d'apprentissage de la bienveillance commence avec soi. On n'est pas dans une... Bienveillance avec soi signifiant de ne pas être dans une attitude de dénégation, de conflit, de répression, d'inhibition. En étant attentif avec soi, dans un sourire intérieur, si on veut dire. Un sourire de bonté et de douceur vis-à-vis de soi. Ce qui ne veut pas dire une complaisance permissive, mais il y a une dimension de bienveillance qui commence avec soi. Et si l'on est bienveillant avec les autres, la bienveillance appelle la bienveillance. Hein? Et la bienveillance fonctionne aussi et se cultive avec le discernement. Donc, c'est pas une bienveillance ou une compassion stupide. Et donc, il y a un discernement, et être bienveillant ne signifie pas de ne pas savoir dire non. Et il est quelquefois bienveillant de dire non, non, pas d'accord. Donc voilà. Mais il est important de cultiver la bienveillance, de s'y entraîner et de savoir faire le premier pas. Un vaillant, une vaillante apprend à toujours faire le premier pas dans la bienveillance. C'est très utile. Un petit moment de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir aux Lyonnais de tout cœur et à bientôt.